Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans La Grande Librairie. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle saison. Nous sommes ensemble tous les mercredis soirs sur France 5 avec des écrivains que vous connaissez et puis avec des écrivains que vous découvrirez. Cette rentrée littéraire est pleine de très bonnes surprises et, vous le savez, parfois les livres des uns répondent à ceux des autres. C'est le cas ce soir autour d'un thème « Enfants de héros, enfants de salauds ». D'ailleurs, tiens, savez-vous vraiment de qui vous êtes l'enfant? J'accueille ce soir quatre écrivains qui racontent, qui enquêtent, qui témoignent, qui cherchent et puis surtout qui mettent en récit de façon merveilleuse, très différente, ce père héros ou ce père salaud. Bonsoir Amélie Nothomb.
Bonsoir François.
Vous ne pouvez pas imaginer, c'est vrai, une rentrée littéraire et une émission de rentrée sans vous, qui êtes la marraine de cette émission. Premier sang, votre nouveau roman est un livre que aucun lecteur d'Amélie Nothomb n'a jamais lu. C'est le livre, peut-être, que tous les lecteurs d'Amélie Nothomb attendaient, le livre clé, puisque c'est celui que vous consacrez à votre père, disparu l'année dernière, au premier jour du confinement. C'est un livre qui est, comme d'habitude, plein d'humour, pour parler des tragédies, plein d'insolence, pour évoquer les chagrins. Vous nous raconterez pour quelles raisons vous avez choisi de mélanger ces genres, et puis surtout d'entrer dans la peau de votre père, car je crois que c'est le tour de force, dire « je » à la place de celui ou de celle qui vous a donné naissance. C'est un livre sur l'héroïsme aussi. Peut-être que c'est ça, d'ailleurs, l'héroïsme, une façon de se tenir dans le monde, aller savoir. Tiens, si on interrogeait Marc Duguin, car il publie également un livre, un roman sur son père, dont l'héroïsme se trouve ailleurs, peut-être dans la volonté dont ce père fit preuve pour combattre un autre ennemi, la poliomyélite et puis le handicap. Bonsoir Marc Duguin.
Bonsoir.
Romancier et cinéaste, c'est le romancier qui est là ce soir. Et vous l'avez intitulé « La volonté ». On verra dans un instant pour quelles raisons. Alors je vous ai présenté deux enfants de héros. Voici un enfant de salaud. Bonsoir Sorge Chalandon.
Bonsoir.
Ouais. Je suis très heureux et très ému de vous recevoir parce que je vous lis depuis votre premier roman et celui-ci est le plus sobre, le plus puissant et le plus terrible en même temps. « Enfant de salaud », titre de ce livre que vous avez, j'allais dire, enfin écrit sur votre père, un père dont vous aviez déjà, Sorge Chalandon, raconté, sondé la mythomanie, les affabulations dans de précédents ouvrages. Mais alors, vous n'aviez pas raconté cet aspect. Collabo, pendant la Deuxième Guerre mondiale, se vantant même d'avoir été un SS. Vous le confrontez, ce père, à son propre passé, à ses mensonges et puis à son mystère, le tout sur fond de l'un des plus importants procès de l'histoire, le procès de Klaus Barbie, qui était le patron de la Gestapo de Lyon. Puis vous le savez, je vous propose chaque semaine dans cette émission des découvertes, des nouveaux écrivains à côté des romanciers confirmés. Nous allons parler du meilleur des premiers romans de cette rentrée littéraire. Il s'intitule Blizzard et je suis ravi d'accueillir son auteur, Marie Vintras. Bonsoir.
Bonsoir.
Marie Vintras, alors on va le dire simplement, j'ai adoré votre roman. Une gifle, premier roman totalement maîtrisé, ce qui est déjà un exploit, huis clos dans les grands espaces, ce qui en est un autre, suspense infernal, puissance d'évocation magistrale, et puis belle réflexion sur la paternité, les héros et les salauds ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Je ne savais pas moi que Russell Banks et Cormac McCarthy avaient une petite sœur, bienvenue.
Si, tout à fait. Ils m'ont caché, mais je suis sortie de ma tanière.
Vous avez envoyé aussi votre roman par la poste. Ça, vous nous raconterez dans un instant. Une question avant d'ouvrir vos livres respectifs sur votre père, sur la paternité. Votre père vous a-t-il transmis le goût de lire? Ou bien un livre en particulier, Sorge Chalandon?
Il m'a transmis le goût de raconter des histoires.
Oui.
Mais de lire, non, parce qu'il ne lisait pas. C'est un homme qui ne lisait pas, il n'y avait pas de musique à la maison, il n'y avait pas de livre, il y avait la télévision, une chaîne. Mais quand il s'asseyait au pied de mon lit lorsque je dormais, avant de m'endormir, et qu'il me racontait comment il avait fait sauter des trains à Lyon, ou comment il avait été très proche de Jean Moulin, qu'il appelait par son prénom, ça donne envie de continuer et de raconter ça aux copains en classe et ensuite d'écrire peut-être des romans, je ne sais pas. En tout cas, lire, non, mais donner à lire, probablement.
Oui, et envie de raconter l'histoire. Ça commence quand même, cette histoire, absolument, votre histoire, on en parlera, elle commence par mon père, ce héros. Et puis on va voir que ce n'est pas si simple. Amélie Nothomb, votre père vous a-t-il transmis un livre en particulier ?
Oui, il m'en a transmis plus d'un. Mon père était un dévoreur de livres. Je crois que mon père était exactement le contraire de celui de Serge Chalandon. C'était un homme qui disait toujours la vérité et qui ne savait pas faire, comment faire pour parler à une enfant, mais qui essayait quand même. Et moi, ce qu'il essayait de me dire, c'est qu'il fallait lire des livres parce que c'était comme ça qu'on devenait un héros. Je crois que c'est comme ça que lui-même est devenu un héros. J'ai essayé, comme j'ai pu, de suivre son exemple.
Lisons, on ne sait jamais des fois que nous devenions tous des héros. Marc Duguin, que vous a-t-il transmis ? Goût de la lecture ? Goût de raconter des histoires ? Des livres ?
Il y avait une grande bibliothèque à la maison. Et mon père lisait, il y avait tous les classiques, il y avait tous les prix Nobel depuis la création du prix Nobel. Donc il y avait vraiment un spectre très large. Alors il lisait beaucoup, mais celle qui lisait beaucoup, c'était ma mère. Et alors ma mère avait quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'elle lisait énormément quand elle ne travaillait pas, mais elle ne disait jamais rien sur le livre qu'elle avait lu. Comme si c'était quelque chose de tellement intime qu'elle ne pouvait pas s'en ouvrir à nous. Donc en fait, c'était un peu frustrant. Si on lui disait « c'est bien », c'est bien. Et puis ça s'arrêtait là. Donc, mes deux parents m'ont donné le goût de la lecture, parce qu'ils lisaient beaucoup, et ils lisaient des essais, ils lisaient des biographies historiques, enfin plein de... Et forcément, quand il y a des livres comme ça dans la maison, un enfant finit par s'y intéresser. Et je me suis mis à lire comme ça.
Marie Vintras ?
J'ai des parents lecteurs, mais le goût de la lecture, vraiment, mes premiers souvenirs, c'était leur ami libraire à Nancy, Roger Mossevic, je vais le citer, parce que les libraires ne sont jamais suffisamment cités, et qui m'apportait des livres. Et je pense qu'il en apportait à toutes mes sœurs, mais j'ai revisité l'histoire, il n'en apportait qu'à moi. Pardon.
Revisiter l'histoire, je crois que ce soir, on va vraiment devoir aborder le sujet et ouvrir le dossier.
C'était vraiment un cadeau. Les livres qu'il apportait, c'était vraiment le cadeau de lecture et c'était des livres inattendus.
Mais ça vient par vos parents aussi, l'ami de la famille.
Oui, mais c'est lui que j'ai vraiment investi de cette transmission de la lecture.
La transmission qui est au cœur de tous vos livres, en réalité, avec des perspectives extrêmement différentes, parfois vertigineuses. Amélie Nothomb, je le disais, c'est peut-être votre roman le plus personnel, c'est en tout cas, je trouve, le plus beau. Hommage à votre père, élevé parmi une bande de petits sauvages pendant la guerre, pour pas dire parmi les dingues, et qui deviendra diplomate, qui fera très jeune non seulement l'expérience d'une prise d'otage au Zaïre, où il est consul général, mais même d'un simulacre d'exécution. Il passe devant le peloton. C'est la scène d'ouverture de ce roman, intitulé « Premier sang », chez Albin Michel, évidemment. Alors là, on est clairement dans l'hommage au père, ce héros, vous avez employé le mot. Votre père, disais-je, est mort l'année dernière, le 17 mars 2020. Il avait 83 ans. Et le confinement ne vous a pas permis d'assister à ses obsèques. Ce roman est-il l'adieu que vous auriez pu prononcer ce jour-là ?
Oui. Ça a été tellement terrible, non seulement qu'il meure, parce que, croyez-moi, je ne m'y attendais pas, mais de ne pas pouvoir l'honorer, de ne pas pouvoir me rendre à ses funérailles, que j'ai tellement eu l'impression d'un au revoir raté que 6 mois plus tard, sentant que cette situation était intolérable, je me suis dit, il faut que je lui rende la vie pour que je puisse enfin lui dire au revoir. Comment rendre la vie à mon père ? Bon, après tout, ma vieille était écrivain, fait quelque chose avec ça, c'est l'occasion ou jamais d'en faire quelque chose. En plus, on m'avait toujours dit depuis ma plus tendre enfance que j'étais le sosie de mon père, que je me souviens de scènes traumatisantes de mon enfance où on me présentait au public en disant « là, c'est Patrick ». Moi, j'étais là en train de dire « mais non, je ne suis pas Patrick, enfin, ça se voit bien que je ne suis pas Patrick ». Et là, tout à coup, je me disais « après tout, puisque je suis Patrick ». Est-ce que ce n'est pas... Est-ce que c'est... Peut-être que oui, finalement. Peut-être que je suis mon père et peut-être que je vais m'offrir cette expérience incroyable d'être mon père. L'espace d'un roman, et Dieu sait l'énergie et l'émotion que je peux mettre dans un roman, je vais être mon père pendant 4 mois de ma vie.
Donc l'idée d'écrire à la première personne du singulier, qui est, à mon avis, ce qui emporte tout dans le livre, le fait que Patrick disent « je », que oui. Vous écriviez « moi, Amélie Nothomb, je suis mon père ». C'est quand même une expérience vertigineuse quand on y songe. Cette idée-là, elle s'est imposée.
Elle s'est imposée.
Parce qu'on vous, on vous disait que vous étiez le sosie de votre père.
Parce qu'on me disait que j'étais le sosie de mon père et que quand j'étais toute petite, ça me blessait parce que je voulais tellement exister que je ne pouvais pas concevoir. Je me disais « mais ouvrez les yeux, les gars, je suis moi, enfin, je ne suis pas mon père, rendez-vous compte ». Et là, une fois qu'il était mort, c'était devenu complètement le contraire. C'était « en fait, vous aviez raison, je suis mon père, donc je vais vous le prouver ». Donc, je suis devenue mon père l'espace d'un livre. Rassurez-vous, j'ai mesuré tout l'espace qui me séparait de lui. Je serais bien incapable d'être mon père.
Mais est-ce que vous avez mesuré, pardonnez-moi, la gêne possible? Parce que vous racontez tout. Vous racontez l'enfance de l'orphelin. Vous racontez le désamour avec la mère. Vous racontez, ça c'est plutôt drôle, l'éducation parmi une bande de sauvages qui sont des frappadingues. On parlera des Nothombes, évidemment. Oui. Sorti de chez Truffaut, cela. Et puis, évidemment, la gêne que l'on peut parfois éventuellement avoir à faire sienne des paroles que lui aurait peut-être prononcées différemment. Est-ce que vous y avez pensé?
Bien sûr, j'y ai pensé. L'essentiel pour moi était d'écrire un livre qui soit juste sur la frontière entre ce que mon père aurait pu dire et ce que, par définition, il n'a pas dit, puisque mon père était un homme extrêmement pudique qui ne parlait jamais de sentiments.
Jamais.
Jamais.
Tout le livre tourne autour de la mort,
oui.
Qu'il a fréquenté très jeune,
oui.
De l'amour.
Oui.
Il vous en parlait?
Non. Tous les faits du livre sont vrais, je les connais, mais tous les sentiments, toutes les émotions qu'il a pu éprouver pendant les faits, ça, c'est la fiction. C'est ce qu'il a été incapable de dire parce qu'il a eu cette enfance très traumatisante, cette enfance, pour ainsi dire, sans parents. Son père qui était mort quand il avait 8 mois, sa mère, pour ainsi dire, trucidée par la mort de son mari. Donc, mon père a grandi sans sentiments et est devenu incapable de dire ses sentiments alors qu'il en éprouvait. C'était un homme tendre et bon et doux, mais il était incapable de dire ses sentiments. C'est une chose qui m'a toujours frappée avec lui quand j'étais petite. Je sentais qu'il m'aimait, ça se sentait très clairement, mais il n'était pas capable de le dire. Et J'ai lu le livre dans lequel il raconte son expérience d'otage. Enfin, il s'est quand même retrouvé devant un peloton d'exécution. On sait, grâce à Dostoïevski, que c'est une expérience extrême, que toute personne qui a vécu le peloton éprouve des vertiges métaphysiques fantastiques. Mon père raconte cette expérience avec tous les détails, sauf ce qu'il a pu éprouver.
Ce sont des mémoires très factuelles.
C'est ça. Il ne raconte que les faits. Alors, j'ai lu le livre 2 fois. Je me disais, mais papa, mais où es-tu dans cette histoire? Où es-tu? Je veux savoir ce qui me manque dans cette
plaisir,
histoire.
Ça doit faire plaisir, quand vous avez une fille écrivain traduit dans le monde entier, qui est célébrée partout, et qui vous dit « mais où es-tu dans cette histoire, tout de même ?»
Je sais que ça lui aurait fait plaisir, parce que quand je parlais de lui, il en était toujours très heureux. C'est comme s'il avait conscience qu'il avait un déficit de sentiments qu'il ne parvenait pas à éprouver. Et finalement, j'ai l'impression qu'il comptait sur moi. Je sais que ça a l'air affreusement prétentieux, mais je vous assure que j'ai senti ça après sa mort, qu'il comptait sur moi pour raconter tous ces aspects de sa vie qu'il n'aurait jamais pu dire.
Donc en rentrant, voilà, c'est bien. Patrick, c'est très Nothomb. En entrant dans la peau de votre père, en vous glissant dans sa peau, vous n'avez pas eu le sentiment de profaner un temple, d'aller trop loin?
Non, parce que je sais très bien tout ce que je n'aurais pas dit. Ce livre est aussi fait de limites. Je n'ai pas tout dit sur mon père. Je ne savais pas tout sur mon père. Je crois que j'ai compris beaucoup à travers énormément de silences. Mais ces silences, je ne me serais jamais permis de les mettre en mots. Mon père voulait être un héros. Et je pense qu'il est devenu le plus grand héros qu'on puisse imaginer. D'une constitution plutôt délicate, il a sauvé la vie de 1500 personnes. Rien qu'en parlant tous les jours pendant 4 mois, c'est un héroïsme exceptionnel.
Alors, on va revenir sur ce point, mais un mot d'abord sur la construction. Parce que je vois Sorge Chalandon fasciné par ce que vous racontez. Est-ce que vous auriez pu, vous glisser dans la peau de votre père,
la peau d'un salaud, vous voulez dire?
Oui.
Plus difficilement.
Plus difficilement. Oui. Est-ce que vous avez songé? Est-ce qu'à un moment, vous avez dit, tiens, quand on entend Amélie dire, c'est un moyen de comprendre, un moyen de connaître.
Mais c'est un héros. J'aurais pu me glisser dans la peau d'un héros parce que j'ai envie de ressentir l'héroïsme.
Oui.
Mais me glisser dans la peau d'un salaud, je me suis glissé dans un livre sur l'Irlande, dans la peau d'un traître.
Oui, alors justement, oublions les qualificatifs.
D'accord.
Ni héros, ni salaud.
D'accord.
Votre père. Juste votre père.
Non, parce que j'aurais eu en face de moi un enfant qui avait peur de lui.
Bonne réponse.
C'est un livre terrible que celui de Sorge. Je l'ai pris, bon, j'avais lu bien sûr beaucoup de livres de Serge Chalandon, mais celui-là, c'est tellement une clé, ce personnage qui ne dit jamais la vérité, qui se dérobe, qui invente toujours un nouveau mensonge. Comment se construit-on quand on a un père qui construit toujours un nouveau mensonge ?
On ne se construit pas, on fonctionne. Et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure hors antenne, si je puis dire. Je disais à Amélie, mais qu'est-ce que j'aurais aimé ? Cette fierté d'avoir un père comme le vôtre, à tous les deux. C'est-à-dire un père qui... un père qui a la tête haute, un père que l'on retrouve, un père que l'on défend, un père que l'on aime, un père dont on est fier. Moi, j'ai caché mon père à tout le monde. La vérité sur mon père, j'ai jamais osé, parce que je suis pas comptable de ce qu'il était, mais enfant de héros, enfant de salaud, on voit la différence tout de suite. Que ça soit en classe, que ça soit dans la cour de récréation, que ça soit dans la rue, que ça soit aujourd'hui, que ça soit maintenant. Tu préfères quoi dans la vie, enfant de héros ou enfant de salaud? Plutôt enfant de héros. Tombe mal, mauvaise pioche, enfant de salaud, et on fait avec. Mais on se construit pas, Amélie, on se construit pas. On essaie de pas se détruire tout à fait.
Waouh.
Avez-vous le sentiment que l'héroïsme de votre père vous a construit? Ou est-ce que vous êtes construite en fonctionnant ailleurs, parfois contre lui aussi?
La réponse est double. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout enfant me disait « Mais celle-là, c'est Patrick !» Alors la gosse, évidemment, elle dit « Mais non, je ne suis pas Patrick !» Enfin, regardez-moi, vous voyez bien que je ne suis pas Patrick. Les choses ont changé. Je vois tout ce que je lui dois. Je vois tout ce qui en moi est lui et tout ce qui en moi n'est pas lui.
Ça, vous le voyez aujourd'hui.
Je le vois aujourd'hui.
Mais avez-vous été, Marc Dugain raconte dans son livre, qu'il a haï son père d'une détestation... Non, pas longtemps, mais ce sont des pages qui sont aussi des pages très fortes, très puissantes, qui donnent peut-être toute leur valeur au témoignage de l'enfant ex-rebelle. Est-ce que vous avez, vous, Amélie Nothomb, eu ce moment qu'on appelle publiquement crise d'adolescence et qui ensuite, peut-être, travaille un romancier?
Bien sûr. J'ai eu cette adolescence à fond. Je me souviens d'une scène clé. J'avais 15 ans. Je gueulais mon père qui m'engueulait. Il m'emmène au fond du jardin et il me dit, regarde dans le fond des yeux, il me dit, toi, tu es juste comme moi. Tu n'es rien et tu ne seras jamais rien. Et je me dis, mon Dieu, mais comment peut-il dire ça? Cet homme n'est pas rien. Je sais qui il est. Pourquoi est-ce qu'il me dit qu'il n'est rien? Et pourquoi est-ce qu'il me dit que moi, je ne suis rien? Je me souviens que j'ai rien dit, mais j'ai pensé, mais tu vas voir que je ne suis pas rien. Mais tu vas voir que je ne suis pas rien. Donc oui, on se construit comme ça.
Alors il n'est pas rien, en effet, votre père. Il est très jeune, consul général de Belgique. Il a 28 ans, je crois, lorsqu'il arrive à Stanleyville, qui est depuis devenu Kisangani. À l'époque, c'est le Zaïre. Et pendant 4 mois, il est pris en otage par les rebelles Simba. Il y a 1500 ressortissants étrangers, essentiellement des Belges, bien sûr. Et là, son comportement est étonnant. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le diplomate, de l'autre le raconteur d'histoire, celui qui se débrouille avec le réel, avec la réalité. Il y a une scène qui est celle totalement folle du peloton d'exécution. Je me suis dit en le lisant, non, hein, une fois de plus, Amélie Nothomb en fait trop, ça n'est pas possible. Dostoïevski a raconté ce que c'était, sauf que lui, il a fait 50 bagues ensuite. Votre père a réellement été collé devant le peloton d'exécution.
Mais oui, et dans le livre, il raconte la scène 2 fois. Donc cette scène s'est produite 2 fois. Mon père ne mentait jamais. Donc cette scène s'est produite. La chose qui rend cette histoire invraisemblable, c'est qu'il ne s'en... Non seulement il ne s'en plaignait pas,
Mais il ne s'en vantait pas non plus.
Alors c'était la modestie incarnée. Mais les rarissimes fois qu'il en parlait, c'était pour dire... Ce qui m'est arrivé de plus formidable de toute ma vie, c'est d'avoir été otage pendant 4 mois. Donc il présentait ce drame, parce que franchement, c'est une horreur de vivre une chose pareille, il présentait ça comme un privilège, comme l'aventure de sa vie.
Et il le dit avec un petit sourire. Tiens, oui. Regardez.
Étant autorisé à faire n'importe quoi pour protéger mes compatriotes, j'utilisais le système du dernier message à M. Spaak. Et alors, on m'amenait à la radio des rebelles à Stanéville. C'était le seul endroit où l'on pouvait communiquer avec l'extérieur. Et là, j'écrivais un discours délirant où je traitais mon ministre de criminel et lui demandais de changer sa politique criminelle, etc. J'étais autorisé à lire, après censure, à lire ces messages, et avec un revolver dans le cou pour le cas où j'aurais fait un changement dans le texte. « Cessez votre politique criminelle pour moi », cela voulait dire « Venez à notre secours ».
Oh là là, là vous avez fait très fort. Vous voyez que je n'invente pas. Il raconte ça comme si c'était la plaisanterie du siècle. Je rappelle que cet homme que vous avez vu a parlé pendant 4 mois entiers, lui qui était un homme taiseux, il a parlé pendant 4 mois entiers pour sauver la vie de 1500 personnes, et il l'a fait.
Alors racontez la façon dont votre père se transforme en Scheherazade zaïroise, en quelque sorte, tous les soirs, auprès de l'arbre à palabres ou auprès du feu, pour raconter des histoires et raconter des histoires politiques, pour éviter que ça dégénère en bain de sang. Il y aura tout de même une prise d'assaut, une cinquantaine de morts, et beaucoup plus du côté des rebelles.
Donc, de août à novembre 1964, mon père se retrouve consul à Kisangani dans une prise d'otage. Et tous les jours, les rebelles arrivent avec leur Kalachnikov et disent « On va tous vous tuer !» Et tous les jours, mon père dit « Très bien, mais auparavant, nous allons parler. » Et il parle, il entretient la palabre jusqu'à ce que les rebelles s'endorment avec leur Kalachnikov. Il a fait ça pendant 4 mois. Je le répète, mon père n'était pas un homme bavard. Quel plus grand héroïsme que d'endormir les Kalachnikovs de je ne sais combien de centaines de rebelles furieux pour sauver 1500 personnes.
Et grâce à l'éloquence, parce que votre roman est aussi un livre sur l'éloquence. C'est comme souvent vos romans, des romans à tiroir. Il y a ce formidable éloge du pouvoir de la parole, de la capacité à apprendre à raconter une histoire.
C'est ça. Il se retrouve sur le terrain, lui qui n'avait jamais eu dû parler. Il se dit, maintenant je parle ou tout le monde meurt. Et il parle, et il trouve en lui une parole. Il alimente cette parole, et cette parole, en même temps, fort de sa dignité de jeune consul de Belgique, il fait parler, il met en valeur ses interlocuteurs en disant, mais exposez-nous donc vos convictions politiques. Et,
d'où tire-t-il cette force ?
Je pense que son imaginaire à lui était verbal. Mon père n'était pas un écrivain, mon père était un orateur extraordinaire, un orateur qui s'ignorait. Il ne savait pas qu'il possédait cette parole-là.
Vous voulez dire que c'est à être dans l'obligation de parler pour sauver des vies qu'il s'est découvert une compétence en éloquence.
Il s'est découvert cette compétence en éloquence. J'ai vécu toujours mon père comme un être double. À la maison avec nous, il ne parlait jamais. Dès qu'il y avait des gens, j'ai envie de dire du public. Ah. Il commençait à parler avec une éloquence, mais juste incroyable. Vous l'avez vu parler. Quel homme amusé et ravi de parler. C'est vraiment un curieux mystère.
À vous lire, j'ai l'impression qu'il y a tout de même une piste qui explique cette capacité à devenir Scheherazade. Une piste qui s'appelle Arthur. Rimbaud.
C'est
voilà le livre que votre père lit lorsqu'on l'envoie très jeune, une dizaine d'années, chez les Nothomb. Alors évidemment, avec Amélie Nothomb, ne vous attendez pas à ce que la famille soit uniquement un vaste prairie dans laquelle les roses poussent. Il y a aussi des épines. Et les épines, c'est l'autre branche de la famille.
Oui.
Qu'est-ce que vous leur mettez, dites-moi.
Bah, écoutez, les Nothomb, c'est une famille très particulière. En France, personne ne sait qui c'est. En Belgique, ils sont relativement connus. Et à l'époque, le Nothomb célèbre, c'était mon arrière-grand-père, Pierre Nothomb, donc le grand-père de mon père. Comme mon père était orphelin, son grand-père le recueille chez lui, voilà, c'est lui. C'était un poète catholique qui, chaque fois qu'il pêchait, et il pêchait beaucoup car il était très grand amateur de femmes, chaque fois qu'il pêchait, écrivait des poèmes chrétiens dans l'idée de se faire pardonner. Et il est entre autres l'auteur du seul roman de science-fiction catholique au monde.
Qu'est-ce que c'est que ça, un roman de science-fiction catholique ?
Eh bien, c'est l'histoire d'un missionnaire qui part sur la planète Mars dans l'idée d'évangéliser les Martiens. Et ça échoue lamentablement parce qu'il tombe amoureux d'une belle martienne et ça se termine par une scène de coucherie avec la belle martienne. Donc c'est là qu'on voit les limites. Cet homme était très lucide sur ses limites.
Toujours est-il que face à ce poète immense qui est surtout très imbu de lui-même,
qui
aime s'entendre réciter et entendre ses enfants réciter, votre père découvre Rimbaud.
Et Rimbaud devient son poète préféré. Et mon père connaissait par cœur le bateau ivre et le récitait volontiers. Et je sais que dans son expérience d'otage, ça a beaucoup compté de connaître par cœur le bateau ivre. Il rythmait ce très long cauchemar de 4 mois en se récitant le bateau ivre.
Vous racontez pas la vie de votre père avec Amélie Nothomb. On non, est en moins 4, moins 6 avant A.N., si vous voyez ce que je veux dire. Pour quelle raison ?
Mais c'est beaucoup plus intéressant, mon père avant moi. Qu'est-ce qui a pu amener mon père à avoir un jour ce projet fou d'avoir un troisième enfant alors qu'il avait déjà 2 enfants, un garçon et une fille, parfaits, des perfections de la nature ? Qu'est-ce qu'il a pris de vouloir mettre au monde ?
Vous avez la réponse.
Oui,
Que répond-il aux terroristes, preneurs d'otages, qui lui disent « Est-ce que vous voulez avoir un autre enfant ?»
Il faut que vous sachiez que cette réponse est authentique. Là, vous voyez quand même le bonhomme. Il vient de réchapper au peloton. Il y croyait. Il savait qu'il allait mourir. Il y a cru à fond. À la dernière seconde, on vient lui dire « Mais c'est une plaisanterie, on s'est fichu de votre gueule. » Et à ce moment-là, on vient le narguer en lui disant « Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Est-ce que vous avez déjà des enfants ? Ah, et vous avez déjà 2 enfants. Est-ce que vous en voulez un troisième ?» Et là, mon père, au déboté à cette réponse, mais vraiment extraordinaire, cela dépendra de vous, monsieur le président. Enfin, qui pense à dire une chose pareille ? Ben, c'est mon père.
Est-ce que l'esprit de répartie est l'un des héritages de votre père ?
Mais plaise au ciel, moi, il a toujours fallu que je passe par l'écrit pour trouver l'embryon d'une répartie. Mon père, c'était dans la vie. C'est beaucoup plus fort.
Puisque vous parlez d'enfants, j'aimerais qu'on revienne sur son enfance à lui et les autres enfants, c'est-à-dire les cousins Nothomb. Alors, on est dans les Ardennes, dans un château fort que vous appelez le château faible, tellement il prend l'eau de partout, et sous la coupe de ce patriarche qui ressemble davantage à un ogre de chez Grimm ou de chez Perrault qu'à un bon père de famille.
Oui, les gens croient que j'ai écrit un conte de plus, mais pas du tout, ça s'est réellement passé comme ça. Je n'y étais pas, mais tous les témoignages convergent. C'était une époque...
Mais ça nous donne les clés pour comprendre les autres romans d'Amélie Nothomb.
Je pense que oui.
Voilà.
Je pense que oui, et finalement, c'était une... À l'époque, je crois que grandir était une expérience essentiellement darwinienne. Si vous surviviez à votre enfance, c'est que vous aviez le droit de vivre.
Mais là, en l'occurrence, ils ne sont pas nourris, ou plus exactement, ils sont nourris en bout de table. Alors, ils sont combien ? Une vingtaine ?
Ils sont 13 15 enfants, et ils n'ont droit qu'au reste des adultes. C'est authentique. À l'époque, enfin, dans ce milieu-là, les enfants étaient nourris des restes des adultes.
On est pendant la guerre.
Oui.
Ce qui explique aussi cela. Il apparaissait furtivement, votre père, j'ai remarqué, dans plusieurs de vos romans, depuis d'ailleurs les tout débuts, pratiquement le deuxième ou le troisième roman. Vous dialoguez avec lui ? Vous parliez avec lui ? Comment jugeait-il ses apparitions dans les livres de sa fille ?
Je parlais très peu avec mon père. Je sais qu'on a du mal à l'imaginer quand on lit ce livre. Mon père était un homme qui parlait peu, particulièrement à ses enfants, mais dont la parole valait beaucoup. Et il était très heureux quand il apparaissait sous ma plume. J'ai su par un témoignage détourné qu'il avait dit un jour que sa plus grande fierté dans la vie, c'était d'être mon père. Ça m'a fait beaucoup d'effet.
Vous aviez intitulé pourtant, il y a tout juste 10 ans, vous étiez venu le présenter, évidemment.
Tu es le père, c'était pas du tout une histoire sur lui. Il était question d'un père qui n'avait rien à voir, sauf qu'il était question quand même d'un père excellent dans ce livre.
Oui, sauf qu'à l'époque, évidemment, je vous ai parlé du roman, pas de la phrase. Tuer le père, ça ne vous est jamais, passé par la tête.
Mais non.
Marc Duguin, vous.
Ah ben moi, oui. Ben, c'était une question de...
Sors, je vous pose même pas la question.
C'était un peu une question de survie.
Mais, non mais moi, c'est absolument le mot que je cherchais. Moi, ça n'aurait pas été... Moi, ça aurait été tuer le père pour survivre, pour m'en sortir. Mais pas tuer le père par haine, méchanceté. Mais c'est juste tuer le père pour que moi je vive.
Je note tout de même un mot. Un verbe que vous venez tous les deux de lâcher et qui est au cœur du livre d'Amélie Nothomb. Il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre. Sauf qu'il y a une version héroïque et puis il y a une version qui l'est un petit peu moins. Il y a une version rebelle.
Et c'est le grand mystère du livre de Sorge Chalandon, c'est que si au moins votre père avait fait tout ça pour survivre, on comprendrait, on pardonnerait. Mais c'est ça, le grand mystère, c'est qu'il ne fait pas ça pour survivre. On ne sait pas pourquoi il fait ça. Votre père ment pathologiquement et personne ne comprend pourquoi.
Si c'était un enfant, si jusqu'au bout il était juste resté un enfant.
Vous auriez pu prendre la phrase qu'Amélie Nothon a choisie comme épigramme de son livre, cette phrase de Sacha Guitry, « Mon père est un grand enfant que j'ai eu quand j'étais tout petit ».
Alors, « Mon père est un grand enfant que j'ai eu quand j'étais tout petit et maintenant que je suis grand, je regrette de l'avoir manqué ».
Vous trouvez que c'est vous qui l'avez manqué ? Vous donnez cette responsabilité ?
C'est un rendez-vous manqué dont je suis en partie responsable parce que je ne l'ai pas confronté.
Mais vous avez tout essayé.
J'ai tout essayé. Tout essayé, notamment 10 romans,
oui.
Dans lesquels j'espérais qu'il lise des petits morceaux de lui, mais il n'a jamais rien vu.
Il n'a jamais lu vos livres ?
Si, mais il ne voyait pas. J'ai peur qu'on soit en train de dévier.
Oui, mais restons si vous voulez bien.
Non, mais sur cette question. Par exemple, j'ai écrit un livre qui s'appelle La légende de nos pères. Et dans La légende de nos pères, c'est l'histoire d'un. Ça se passe à Lille, très, très, très bizarrement. Vous verrez que mon père était emprisonné à Lille. La légende de nos pères, c'est un vieux Lillois qui s'appelle Bezabok, Teslin Bezabok, et qui racontait toute sa vie à sa fille qu'il avait été un grand résistant, la bataille du Rail. Un grand résistant. Et sa fille le croit, comme moi j'ai cru mon père. Et Bezabok, il a l'âge de mon père dans le roman, et c'est mon père. Je lui donne ses vêtements, je lui donne sa carrure, je lui donne ses cheveux. C'est-à-dire que c'est mon père, c'est extrêmement clair. Et la fille emploie un biographe familial pour qu'il fasse, ce biographe fasse l'histoire de résistance de son père, pour juste qu'il y ait des traces dans la famille, qu'il y ait un petit ouvrage qui raconte papa. Et le biographe fait une chose que personne ne fait jamais. Quand on est biographe, il vérifie. Il vérifie et voit que tout ça est faux. Ce mensonge-là, mon père-là, mais comme c'est une fille et non pas un fils, comme ça se passe à Lille, tout ce qu'il me dit en lisant ce livre, c'est « Ah, puis alors l'autre, là, ton Bezabok, je ne sais pas quoi, quel menteur, quel con, celui-là !» Et c'était lui. Et là, faisant ça, je fais mon travail de fils, je lui dis « Papa, je sais. » Et ce livre-là, c'est « Papa, il est encore en vie, je sais. » Et lui, tout ce qu'il voit, c'est que ce menteur-là, « Ah là, mais à moi, je vois un type comme ça, mais je lui rentre dedans. Hein. » Et je n'ai pas eu, et là, c'est mon tort. Je n'ai pas eu le courage de dire, mais c'est toi, papa. Et ça, je ne l'ai pas fait.
À plusieurs reprises, dans votre livre qu'on va ouvrir maintenant, oui. Vous dites, je suis resté silencieux. Oui. À quoi l'attribuez-vous, justement, cette incapacité de le confronter, cette incapacité à briser le silence ?
Deux choses, je pense. La première, c'est la peur de sa réaction. J'ai toujours eu peur de mon père, même lorsqu'il était âgé, même lorsque j'étais physiquement plus fort que lui, il me faisait peur. Et surtout, et ça, c'est plus particulier, j'avais peur de briser ses rêves.
Vous aviez peur de briser ses rêves ?
Oui.
Mais attendez, quand vous aviez le dossier ?
Oui. Là, il était mort.
Non, mais d'accord, mais quand vous avez, dans les années 80...
Oui. Tout ce que je sais, dans les années 80, tout ce que je sais, moi, c'est ce que mon grand-père m'a dit. Il a choisi le mauvais côté pendant la guerre. Je l'ai vu habillé en allemand à Lyon. Et pour clore la discussion, ton père, n'importe comment, tue un enfant de salaud.
Donc, ça, moi, c'est votre grand-père qui me dit.
Et tout ce que je sais, ce n'est que ça. Je peux le confronter avec quoi, moi ? Lorsqu'il me dit j'étais habillé en allemand, parce que les résistants, parfois, on s'habillait en allemand, papa, qui a pris le risque d'être en résistant habillé en allemand pendant la guerre. Moi, c'est mon papa. Je crois tout ce qu'il me dit, mon papa. Donc, je ne peux pas l'affronter, je ne peux pas le confronter, parce que je le crois.
Mais ce que ça signifie, c'est que vous l'avez toujours aimé ?
C'est joli.
Compliqué. Est-ce que c'est vrai ? C'est joli, mais est-ce vrai ?
Je l'ai toujours craint, j'ai eu peur de lui toute ma vie jusqu'à la fin. Et en même temps, je me suis dit, toute ma vie aussi, qu'est-ce que ça aurait été bien si juste on s'était rencontrés, quoi. Qu'est-ce que ça aurait été bien s'il m'avait dit la vérité ? Parce que dire la vérité à un enfant, ça veut dire « je t'aime ». Et mentir à un enfant, c'est « je ne t'aime pas ». Donc je n'ai jamais eu ce « je t'aime » qui était juste la vérité, juste qui m'explique ce qu'il avait fait. Et quand on lit ce livre-là, qui est ce qu'il a fait vraiment, je me demande, mais pourquoi il ne me l'a pas raconté ? C'est tellement hallucinant.
Alors allons-y, racontons ce livre-là qui dit, sous forme de roman toutefois, on va y revenir,
oui.
Donc de fiction,
oui.
Ce que fit votre père. Je disais tout à l'heure que vous aviez déjà raconté, et Amélie soulignait, un père mythomane, affabulateur, bon, très bien.
Absolument.
Mais là, c'est un père collabo. La collaboration en temps de guerre, sa guerre, j'ai même envie de dire ces guerres, tant il y a eu de versions plus accablantes les unes que les autres, collaborateurs, bien, mais jusqu'où? Jusqu'à dénoncer, arrêter, jusqu'à partir se battre pour Hitler dans l'habit des soldats de la division Charlemagne, vous savez, cette division qui a défendu le bunker de Berlin. Ça, ce sont les questions qui vous obsèdent,
oui.
qui vous taraudent, oui. qui vous angoissent,
oui.
jusqu'où la collaboration. Vous montrez dans ce roman, Serge Chalandon, Enfant de salaud, chez Grasset, que les choses à l'époque ne sont peut-être pas aussi simples pour un jeune homme de 22 ans que pour nous qui jugeons avec les lunettes du passé, d'un côté les collabos, de l'autre les résistants.
Bien sûr.
Et c'est au cours du procès de Klaus Barbie, à Lyon, en 1987, que vous décidez de superposer l'histoire de votre père à la grande histoire, c'est-à-dire ce procès qui est un procès unique, hein, c'est la première fois que l'on a extradé vers la France
oui.
un... des dignitaires du Reich, hein, il était le chef de la Gestapo
Lyon,
pardon,
oui.
De Lyon. La figure du salaud et du traître, donc, superposée
oui.
à celle qui représente, alors on ne va pas dire le mal absolu, mais qui représente quand même, avec un sourire dingue dans le box,
oui. Et j'en disais rictus,
l'envie de ne pas s'excuser.
Et de ne pas revendiquer.
Comment est-ce que vous avez eu envie, l'idée, et pourquoi tant de temps, trois questions à la fois
oui.
de superposer le procès Barbie au procès que vous intentez à votre père, car
d'abord,
c'en est un.
D'abord, ce qui est important, c'est que dans ce roman, donc, y a une fiction, et la fiction, c'est la temporalité. J'assiste au procès Barbie à Lyon, je suis envoyé spécial de Libération, donc j'assiste au procès Barbie à Lyon, et mon père me demande à assister.
Et ça, c'est vrai.
Et ça, c'est vrai. Et j'accepte. J'accepte parce qu'il est dans la salle, j'accepte parce que ce que j'ai en tête, c'est les paroles de mon grand-père, il a choisi le mauvais camp, et je me dis que peut-être... assistant à ce procès, écoutant les victimes, réentendant l'histoire des 44 enfants d'Izieux qui ont été arrêtés, déportés par Barbie, le criminel contre l'humanité, peut-être que ce petit bonhomme de mon père qui a commencé à vieillir mais qui n'est pas si vieux que ça, peut-être qu'il va réagir. Et moi, j'accepte qu'il vienne au procès en pensant que ce procès va être le déclencheur de la vérité et que peut-être que avec quelques bières en fin de procès, en fin de séance.
Il faut dire qu'on boit beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de bières dans le livre de Chalandon, vous avez remarqué.
Oui, c'est vrai, il y a un peu de bière. Mais ça,
c'est le champagne chez Amélie Nothomb. On est passé à la bière chez Chalandon.
Ça, c'est l'Irlande. En tout cas, j'espère que pendant ce procès, durant ce procès, il peut craquer et me dire « il faut que je te parle ». Il ne le fera pas. Et donc moi, je suis ce procès avec mon père derrière, avec la seule chose que je sais de lui, c'est le mauvais camp. Nous sommes donc en 1987, et je repars avec un père qui me raconte vers la fin de sa vie qu'en fait, il n'a pas été ce résistant qu'il a prétendu, il a résisté au bolchevisme. Déjà, 43-44, résister au bolchevisme, c'est une image particulière. Et un jour, il pense qu'il va mourir, il est fatigué, il est malade, et il m'enregistre sur mon répondeur un mot où il dit, voilà, il faut que je te dise toute la vérité. En fait, j'étais Waffen-SS, division Charlemagne, et j'ai été dans les ruines de Berlin, j'étais l'un des derniers à quitter Berlin en 1944, en 1945, en mai 45, et juge-moi si tu veux, je m'en fous, mais je voulais que tu le saches. Et là...
Comment réagissez-vous lorsque vous apprenez, vous nous rappeliez ce qu'est la division Charlemagne,
alors, n'importe
quoi.
La division Charlemagne venait de ce qu'on appelait la Légion tricolore avant, c'est une légion pétainiste mise en place par le maréchal Pétain avec le drapeau bleu-blanc-rouge pour faire croire aux Français qu'il y avait encore un peu de Français chez les Allemands. Ensuite, Hitler a dissous la Légion tricolore, c'est devenu la LVF, la Légion française contre le bolchevisme, qui est devenue ensuite la division Charlemagne, donc ce sont des SS avec l'écusson France, et qui vont se battre en Allemagne avec la division Wallonne, qui est belge, avec d'autres divisions de pays autres et alliés qui vont se battre contre le bolchevisme. Mon père me dit qu'il est là. Mon père me raconte Berlin.
Et comment vous réagissez quand vous entendez ce message?
Eh bien, je vais vous paraître extrêmement étrange. Je me dis, il a pas, j'ai eu peur qu'il dénonce des Juifs. J'ai eu peur qu'il ait dénoncé des partisans.
Vous aviez peur que votre père soit un collabo dénonciateur, milicien?
Un milicien, un salaud de Touvier.
Mais c'eût été plus grave.
Un lacombe-lucien qui est arrêté des Juifs, qui fait arrêter les Juifs, qui est torturé des partisans. Pour moi, je ne peux pas entendre ça. Quand j'entends mon père qui me dit, écoute, je n'ai pas touché un seul cheveu de Français, jamais. Les Juifs, ce n'était pas mon problème, jamais. Mon problème, c'était d'empêcher les Rouges d'arriver jusqu'à nous. J'étais rouge à l'époque. Donc, c'est très compliqué pour moi. Moi, gauchiste, dans ça de mon père, mais j'entends, mais je comprends, et je crois qu'il me dit la vérité. Donc, c'est pas que je l'accepte, mais...
Est-ce que vous êtes soulagé?
Oui, parce que c'était encore un mensonge. Il n'a jamais été non,
attendez,
à Berlin.
Attendez, oui, on va le découvrir après.
Oui.
Mais quand vous l'entendez?
Alors, je ne suis pas soulagé, mais je me dis, tu n'as pas... Enfin, tu as pas dénoncé les enfants d'Izieux, quoi. Les 44 enfants d'Izieux dénoncés par Barbie, déportés par Barbie, tu n'y es pour rien.
Et qui ne sont jamais revenus.
Et qui ne sont jamais revenus. Donc, il a fait du mal, parce que les SS et la division Charlemagne ont fait du mal partout, jusqu'en Russie, etc. Mais au moins, mon papa, eh ben, c'est un soldat perdu qui faisait la guerre au communisme. On est pour, on est contre, mais il n'a pas fait de mal à des enfants. Alors, français, parce que la division Charlemagne et les autres en Biélorussie, etc., ils ont fait un mal, ils ont massacré, etc. Mais je me trouve en face d'un homme qui a vieilli et qui est en train de m'avouer en me disant, mais crois-moi, je te demande de me croire d'abord, parce que je vais mourir, en gros, mais ne me juge pas, s'il te plaît. Et moi, j'ai 35 ans, je ne peux pas juger mon papa, je ne sais pas, je suis un enfant de Waffen-SS.
À quel moment l'enfant cesse-t-il d'être un enfant? À quel moment ne dites-vous plus mon papa, mais enquêtez-vous sur votre père?
Eh bien, c'est tout récent.
Parce que là, il se passe quand même quelque chose, qui est le tournant du livre. C'est-à-dire que vous apercevez que c'est faux.
Voilà, il se passe quelque chose parce que, en fait, donc, je sais, qu'est-ce que je sais, moi? Je sais que mon père, en mai 45, il est dans les ruines fumantes, il me décrit Berlin, il me décrit son ami français de la division qui est en train de mourir.
Dans ses bras.
Dans ses bras, en disant « Je t'aime toute ma vie, je penserai à toi et pense à moi ». Moi, je suis là, je suis bouche bée. C'est terrible, cette histoire. Et il me demande même, sur le répondeur téléphonique, de passer la chanson « Lily Marlène » quand il sera mort à son enterrement. Pour tous ses, il me dit, pour tous les camarades qui sont morts sur le front de l'Est, dans les plaines d'Ukraine et ailleurs. Mais... il n'a pas touché aux Français. Mais je ne sais pas, c'est étrange.
À quel moment vous êtes-vous dit, Serge Chalandon, à quel moment vous êtes-vous dit, alors que vous êtes en train d'assister à un procès dont vous avez compris très vite, j'ai repris vos papiers dans Libé, que vous savez que l'histoire est
je
en train de s'écrire.
Voilà, non, mais je sais qu'il y a quelque chose.
À quel moment vous êtes-vous dit, ok, très bien, je lâche l'affaire Barbie et ce procès pendant quelques temps et j'enquête sur mon père?
Au mois de janvier 2020, mon père est mort en 2014.
92 ans.
92 ans, il meurt en 2014. Pour moi, l'homme qui vient de mourir en 2014, bah, c'était un Waffen-SS de la division Charlemagne, qui était à Berlin en
attendez, vous voulez dire que vous avez découvert la vérité, ce que vous racontez dans ce roman, encore une fois, une fiction dans laquelle vous avez mélangé la chronologie, vous l'avez découvert il y a seulement un an.
Je mets la main sur quelque chose qui était dans la famille, et je ne le savais pas, sur l'extrait de casier judiciaire de mon père. Et là, je vois qu'il a été emprisonné. Et en mai 45, alors qu'il est dans les ruines fumantes de Berlin avec son ami qui meurt dans ses bras, il est en prison à Losles-Lille.
Ça, c'est ce que les papiers disent. Je crois que vous êtes venu avec le dossier de votre père.
Je suis venu avec le dossier. Je suis venu avec le dossier. Bon, je fais un peu petit avocat, mais je ne suis pas son avocat. Je ne suis pas son procureur non plus. Mais j'ai une phrase de mon père, parce que j'ai le dossier, c'est-à-dire que j'ai tout son système de défense devant la justice. Donc, j'apprends, moi, en 2020, pendant le confinement, je vois qu'il n'a jamais été à Berlin. Il m'a encore menti. Sur son lit de mort, l'homme qui était à Berlin avec les Waffen-SS jusqu'au bout, il était en prison à Losles-Lille. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que tu as fait, papa?
Parce qu'en prison,
qu'est-ce que t'as fait, papa,
en mai 1945, à Losles-Lille, ça s'appelle plutôt fait de collaboration et épuration, non?
Ben, ça s'appelle mandat de dépôt pour atteindre à la sûreté extérieure de l'État, collaboration. Donc ça, maintenant, je sais que mon père est un collaborateur. Je m'en doutais, puisque mon grand-père avait dit il portait l'uniforme allemand, etc. Mais c'est un collaborateur. Et cette phrase, donc il écrit à son juge, et ça c'est pour moi, c'est l'une des phrases les plus belles de tout le dossier. Il écrit à son juge, monsieur le juge, parce qu'il a dit qu'il avait été résistant aussi, je vous demande au nom de mes services dans la résistance de prendre ma lettre en considération. Donc il fait toute une lettre, il termine par ces mots que je trouve magiques. Excusez monsieur le juge mon pauvre style, mais je suis un soldat, pas un romancier. Et je trouve que cette phrase...
Oui, c'est incroyable.
Quand j'ai lu cette phrase, mais j'ai éclaté de rire. Mon père, qui est condamné, qui va être condamné, et qui dit au juge, je suis un soldat, pas un romancier. Et là, je me suis dit, d'accord, papa, bah, c'est, tu viens de me donner une idée, là, quand même. Et donc, l'idée, et donc, l'idée du roman...
C'est vraiment un enfant de salaud.
C'est un enfant de salaud. C'est-à-dire que, alors, il faut qu'on s'entende sur le mot salaud, parce que
oui.
Mon grand-père parlait de l'homme qui avait choisi l'Allemagne.
Mais quand une je très bonne lis... définition, page 260.
Oui.
Je la lis ?
Oui, bien sûr.
Le salaud, c'est l'homme qui a jeté son fils dans la vie comme dans la boue, sans trace, sans repère, sans lumière, sans la moindre vérité.
Voilà.
C'est ça, un vrai
le salaud ? Pour moi, le salaud, ce n'est pas l'homme qui a trahi la France. Là, je ne suis pas en mesure. Mais c'est l'homme qui a menti à son enfant. Là, c'est un salaud. Parce que ce qui est le pire, c'est que dans ce dossier, j'apprends quoi dans ce dossier ? C'est un dossier. D'abord, une chose qui est. Je rends hommage à la justice française, qui en 44 et 45, ils travaillent. Ils ne font pas que pendre un collabo ou l'exécuter dans une cour. Ils travaillent. Commission rogatoire, enquête.
Plusieurs reprises.
Mais oui, c'est-à-dire qu'ils bossent. Ouais. Ils font un vrai dossier de justice qui va lui sauver la vie d'ailleurs. Mais qu'est-ce que j'apprends quand je vois ce dossier ? Et c'est pour ça que je ne comprends plus mon père. Quand je vois ce dossier, je vois qu'il a porté 5 uniformes en 4 ans. 5 uniformes en 4 ans, c'est-à-dire qu'il a été, il s'est engagé dans l'armée française à 18 ans, mon père. Il s'engage dans l'armée française à 18 ans. Il rejoint les troupes d'abord l'armée d'armistice, où Pétain disait qu'il faut une armée d'armistice pour prouver qu'il y a encore un embryon de France qui résiste. Ensuite, il va dans la collaboration dans la Légion tricolore de Pétain. Ensuite, Hitler fout ça en l'air en disant « Tous ceux qui sont là partent maintenant dans la LVF, la Légion contre le bolchevisme, mais en Russie, les petits gars, lui, il se faufile. »
Il déserte, hein, on peut dire le mot.
Il déserte chaque fois.
Ouais.
Il se faufile, il va dans une usine. Une usine de sous-marins, il ne fait pas l'affaire parce que c'est un cossard, parce que c'est un glandeur, c'est un tir au flanc. C'est un tir au flanc. Et il se retrouve avec l'uniforme allemand, NSKK, c'est-à-dire les transports allemands. Il a la croix gammée sur l'uniforme à Lyon. Mon grand-père qui dit « J'ai vu ton père, place Bellecour à Lyon, ça y est, je comprends maintenant pourquoi. » Et quelques semaines après, cette photo qu'on voit peut-être, où il est dans un maquis, dans le nord de la France, et c'est avéré. C'est avéré, c'est-à-dire que son chef de corps, maquis, FTP, lui, l'anticommuniste...
Les francs-tireurs et partisans, c'est-à-dire les communistes.
Voilà, lui, l'anticommuniste, qui est à Berlin, dans les ruines, en fait, il est avec les FTP dans le nord, et ses chefs disent, sincèrement, ce qu'il a fait avant, on s'en fout. Le problème, c'est que lorsque ce gamin, il a 21 ans, avec 20 gars, attaque 60 parachutistes allemands, en déroute, certes, mais 60, pour nous, c'est un patriote. Et c'est ça qui fait que je suis avec
vous. Ça monte encore plus loin dans l'estime de certains résistants qui disent « mais il a sauvé
des vies ». Il a sauvé des vies.
Des vies.
Il a sauvé des paysans français qui cachaient le maquis en disant « eux, mais leur fils se bat en ce moment avec vous dans l'Est », ce qui était faux. Il a sauvé deux jeunes partisans qui ont été trouvés sur la route par les Allemands. Les Allemands disent, on pense que ce sont des partisans.
Bon,
il a dit, non, ce sont des étudiants. C'est-à-dire que là, j'ai un mec formidable qui est en face de moi.
Oui, Sorge, pourquoi
j'ai un père à Amélie Nothomb, j'ai un père à Marc Duguin. C'est-à-dire que, et pourquoi il ne me dit pas la vérité ?
Ben voilà.
C'est justement la grande différence. Votre père, il parlait énormément.
Oui.
D'après ce que j'ai compris, votre père ne parlait pas beaucoup, le mien ne parlait pas beaucoup.
Oui.
Je pense que le héros véritable se tait.
Se tait, mais
oui.
Vous avez raison totalement, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment de sa vie, il a été héroïque.
Pourquoi ne s'en glorifie-t-il pas un tout petit peu ? Un tout petit peu. Il aurait pu, au lieu de vous dire « Ah, regarde, moi j'ai été SS », parce qu'il le dit en se vantant,
oui.
Il aurait pu dire « Regarde, moi j'ai été dans le maquis ».
Parce qu'il n'a pas osé aller jusqu'à Berlin. Et ses copains qui étaient avec lui dans le petit groupe de la Légion tricolore, ils sont allés à Berlin et ils sont morts à Berlin. Et lui, à chaque fois, il est lâche, il part, il s'en va.
Dans le blizzard, il aurait fait marche arrière. Hein.
C'est un père fascinant, moi, ça m'a vraiment...
Oui, mais alors, je ne vous le conseille pas, mais bon, ça y est, c'est fait. Mais en tout cas, ce qui est...
C'est un père fascinant,
fascinant. Moi, je trouve qu'il y a une... Je l'ai considéré comme un salaud potentiel. Curieusement, à la fin du livre, je me suis dit, ça n'est pas un salaud. Ça va peut-être vous...
Non, pas du tout, parce que...
Mais il y a une anecdote que vous racontez, et je trouve qu'elle fait basculer, on peut se dire c'est un mythomane, un fabulateur, l'anecdote de la distribution des lettres.
Oui.
Et les lettres et ce gamin qui est dans les champs avec la bicyclette sur le côté, qui ne distribue pas le courrier.
Qui ment déjà.
Qui ment déjà, qui s'approprie une enveloppe. Et je me dis, mais c'est... C'était simplement peut-être un enfant qui trouvait la réalité tellement inintéressante et tellement effroyable qu'il part dans une... Ça me l'a rendu attachant, cette anecdote-là.
Et aussi un petit animal, parce qu'il n'a pas vraiment notre instruction. Il est pas, il sort pas de classe, il a pas, il n'a rien. Il passe de la petite blouse d'ouvrier à l'engagement dans l'armée française. Et...
Peut-être s'arrêter effectivement sur ce point. Marc Duguin, vous en parlez aussi beaucoup. Les racines, le lieu d'où l'on vient, ouais, la terre ça. D'où l'on vient, explique-t-elle ou pas le choix que l'on fait en 1940 lorsqu'on a 20 ans? Votre père a 15 ans en 1941. Le père de Sorge Chalandon, 20 ans en 1940.
Oui.
Est-ce que vous croyez que ses origines, et puis ce milieu social, peut expliquer un choix?
C'est difficile parce qu'il y a... Effectivement, si on est dans un milieu social où il y a une inculture totale, où il y a... Et puis derrière, on a une personnalité qui n'est pas structurée, qui a, il n'y a personne pour vous montrer l'exemple. Moi, mon grand-père était un homme... je dirais assez proche dans la simplicité, le manque d'éducation. Autant mon père a été quand même très éduqué.
Mais vous lui trouvez des points communs avec le père de Sorge Chalandon?
Mon grand-père, oui. Mon grand-père avait quelque chose de comme ça, de très brut et de très.
Mais il ne mentait pas.
Voilà. Non. Mais je veux dire dans les origines sociales.
Ah, les origines sociales. D'accord.
Dans les origines sociales, ouais. C'était quelqu'un qui n'avait pas d'éducation. C'est quelqu'un qui était parti comme pêcheur en mer d'Islande à 14 ans. Donc, il n'avait pas du tout... Mais il avait une structure mentale incroyable. Et forcément, ça a influencé mon père. Donc, que mon père ait fait un peu de résistance, il n'en a pas fait énormément, parce qu'il a... On ne peut pas dire que ça a été un grand résistant, il a fait de la résistance, mais... forcément, il y avait dans cette famille quelque chose d'extrêmement structuré. Et ce qui est intéressant sur le plan psychanalytique, c'est de savoir, justement... À partir de quel moment ton père part dans cette espèce de délire psychotique, en fait, qui est le mensonge permanent et l'incapacité à se structurer.
Vous écrivez que votre père vous a trahi. La trahison, c'est l'obsession de tout votre vie.
Il a été mon premier traître, bien sûr.
Ouais. Il a trahi son pays.
Oui.
En quoi a-t-il trahi son fils?
En mentant. Moi, je demande quand même le minimum. Je demande juste qu'ils se mettent en face de moi, mais même qu'ils me racontent cette histoire-là, qu'ils viennent un jour, qu'on boive une bière ensemble, et qu'ils soient en face de moi et qu'ils disent, écoute, voilà, il faut que je te dise, parce que si je te dis la vérité, ça veut dire que je t'aime.
Question que l'on retrouve au cœur du roman Blizzard de Marie Vintras. Est-ce qu'un père doit tout dire? Ou est-ce que chacun cache des secrets et qu'il est bon que certains secrets soient tus?
Mais ça, pourquoi me dit-il qu'il était... sur le front de l'Est, en train de se battre dans le bouquin de Hitler. Quelle gloire il en retire lorsque nous sommes dans les années 2000. Comment ça se fait? Et ce qui est bouleversant, c'est que, comme le papa d'Amélie Nothomb, le mien a été mis au poteau d'exécution par les Allemands, il le raconte. Mais les policiers, dans la marge, disent faux. Ils savent que c'est faux. Donc lui dit aussi qu'ils l'ont mis au peloton et qu'ils ont dit que c'était une blague. Ils étaient très joueurs, les nazis, à l'époque. Et là, tout le monde sait qu'à ce moment-là, dans le dossier, que c'est faux. Donc vous avez un homme qui est au peloton, qui va être exécuté, et lui qui raconte qu'il a été exécuté. Cette phrase qu'il dit au juge à un moment donné, « J'aime bien me faire valoir ».
C'est terrible, ça.
Cette phrase, elle est... Pour moi... Toute cette phrase, c'est sa vie.
C'est son explication. Alors, déjà, cette phrase est terrible, mais quand il imagine qu'avoir été à Berlin avec Hitler le fait valoir, on a envie de dire, mais à quel moment ça vous fait valoir?
Et aux yeux de son fils.
Oui.
Et moi, je suis là.
Rouge notoire.
Papa, t'étais avec Hitler, waouh, génial. Mais comment est-ce possible? Eh bien, il en est là. Et ça, c'est parce qu'à chaque fois, il augmente la fiction.
Et il y a un fond de mythomanie quand même. Il y a quelque chose chez lui de mythomanie à une échelle.
Et quand il est mort en hôpital psychiatrique, quand j'ai demandé à ma maman, et je trouve que c'est une phrase magnifique, de quoi est-il mort? Elle m'a dit, ben en fait, il est mort de rien. Et je trouvais que c'était la plus belle épitaphe. Il est mort de rien, voilà.
J'adore.
Et débrouille-toi avec ça.
Enfant de salaud de Sorge Chalandon, c'est aux éditions Grasset. Nous allons poursuivre. Avec le père de Marc Duguin, ce héros, avec les pères, mais je vais avoir du mal à tout dire, hein, de Marie Vintras. Juste avant cela, je vous propose de célébrer une librairie qui ouvre ses portes. Ça n'arrive pas tous les jours, mais il y en a de plus en plus. Ça mérite d'être salué. Je vous emmène à Marseille, sur la colline Vauban, la librairie Mazette, avec un point d'exclamation. librairie créée par deux jeunes femmes à l'énergie vagabonde, là, il y a quelque temps. Mélanie Camoin et Elisabeth Souffleur. Suivez le guide, c'est Inès de la Motte-Saint-Pierre.
Être libraire, c'est un engagement, c'est se battre pour l'ouverture au monde. Mélanie, elle a grandi dans les quartiers populaires de Marseille, dans des quartiers où on lit peu. Moi, j'ai habité dans des zones d'éducation prioritaire. Et en fait, on avait juste envie de répondre à cette urgence de remettre le livre dans le quotidien. Mazette, c'est une librairie avec un point d'exclamation. Mazette, c'est l'énergie, c'est le peps, c'est l'esprit de Marseille. En fait, on avait envie de créer un lieu qui soit à l'image de cette ville. Quand je propose un livre, j'ai l'espoir fou qu'il y ait un coup de poing, qu'il y ait une étincelle, qu'il y ait une caresse et que le lecteur en sorte un petit peu transformé. Francis Rissin de Martin Mongin, c'est un ovni littéraire. C'est une traque autant qu'un jeu de piste pour essayer de découvrir qui est ce personnage complètement énigmatique, ce Francis Rissin dont on voit des affiches fleurir dans toute la France. Tantôt roman policier, tantôt thriller politique, tantôt récit fantastique. C'est une inventivité complètement folle. Les vers à lire à voix haute, c'est Black Label de Léon Contrandamas. Nous les gueux, nous les peu, nous les riens, nous les chiens, nous les maigres, nous les nègres. C'est un poète de la négritude, c'est un poète qui est guyanais et qui demande au peuple noir de prendre sa place dans la société. C'est extrêmement vibrant. Mon road trip, c'est Même les Cowgirls dans du vague à l'âme de Tom Robbins. C'est le voyage à travers l'Amérique de l'autostoppeuse aux pouces les plus longs du monde jusqu'au ranch de la Rose de Caoutchouc qui est géré par une bande de filles déjantées. Et là, tout est dit, en fait. C'est flamboyant, c'est loufoque, ça ébouriffe, mais ça fait du bien. Mon choc, c'est Sequan Island de David Vann. C'est l'histoire d'un père et d'un fils partis vivre un an en Alaska la vie sauvage. Donc au début, c'est la pêche au saumon, c'est la chasse à l'ours. Et puis très vite, les doutes montent, l'angoisse s'installe. Le drame se noue et en fait, on va suivre une longue descente aux enfers. C'est plus un père et un fils, ce sont deux êtres qui n'ont plus rien à voir, qui ne se comprennent pas. C'est un livre extrêmement sombre et glaçant. C'est la première phrase de Mon traître de Sorge Chalandon. La première fois que j'ai vu Mon traître, il m'a appris à pisser. Pour moi, c'est un condensé de la puissance de l'écriture. En 15 mots, tout est dit, on est accroché, on est ferré, rien ne sert de débattre, on peut juste se laisser emporter.
Il a fait venir, Sorge.
Non, mais c'est, je trouve qu'ouvrir une librairie en ce moment,
oui.
Là, on est avec les héros.
Oui, et les héroïnes.
Et les héroïnes, bien sûr, les héroïnes modernes.
Mon père, ce héros, suite avec Marc Duguin, c'est aussi l'épreuve du confinement qui est à l'origine de ce livre, vous nous le disiez tout à l'heure, et vous le racontez dès les premières phrases de ce livre, très beau livre, qui retrace l'histoire d'un père que vous avez, à un moment, détesté, écrivez-vous, brièvement certes, mais avec beaucoup d'intensité, puis dont vous vous êtes rapproché, trop tard, point d'interrogation, on verra, que vous avez failli rater de peu. Il est mort il y a 36 ans, vous en aviez 22. Il n'a jamais su, au final, que ce fils velléitaire, rebelle, comme vous vous décrivez, deviendrait un jour romancier, cinéaste, vendrait ses livres à 3 millions d'exemplaires, publierait La Chambre des officiers, Une exécution ordinaire, une trilogie sur l'emprise. C'est la première fois que vous sacrifiez à ce rituel du récit autobiographique, Marc Duguin, vous qui vous cachez souvent derrière vos personnages historiques. La volonté paraît aux éditions Gallimard. Est-ce que c'est une fiction de votre père ou la vérité sur votre père?
J'aimerais bien le savoir. J'imagine que c'est la vérité parce que alors, c'est pas, contrairement à ce qu'a fait Sorge, qui a fait un travail absolument gigantesque de recherche, de reconstitution, j'ai rien fait de tout ça. C'est un travail de pure subjectivité, c'est-à-dire que j'ai repris tous mes souvenirs. Et ça a été un travail, je dirais, presque une expérience spirituelle.
Spirituelle?
Oui.
Dans quel sens?
C'était de repartir dans mon passé et de retrouver les âmes de mon père, de ma mère, et de passer comme ça un très long moment pendant ce confinement qui a été quand même très long, on s'en souvient, et de me dire je vais être avec eux, je ne serai qu'avec eux, je vais rester avec eux pendant des semaines.
Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que contrairement à Amélie Nothomb qui a écrit juste après la mort de son père, vous nous le disiez, vous avez attendu 36 ans.
Oui, parce que j'avais une sorte de blocage, en fait. J'ai commencé dans la littérature avec l'histoire de mon grand-père, qui était la Chambre des officiers. Bon, qui est une histoire qui compte énormément pour moi, qui m'a marqué, pour pas dire traumatisé. Mais avec mon père, il y avait quelque chose de l'ordre de la statue du commandeur et je n'osais pas y toucher. Je me disais, ça ne va pas être bon, ça va être nul, ça va être... Et alors je repoussais, alors une fois j'ai
essayé, que c'est pas, pardonnez-moi, quelques lignes. Quand vous dites « je n'osais pas y toucher », est-ce que vous ne vous sentiez pas autorisé? Est-ce que c'est de l'ordre de l'autorisation ou pas?
Oui, c'est de l'ordre de l'autorisation parce que je me disais, qu'est-ce qui... J'ai toujours la crainte de me dire qu'est-ce qu'il aurait pensé de ce livre. Est-ce qu'il m'aurait dit, écoute, j'aime beaucoup tout ce que tu as fait, mais ce livre-là, ce n'est pas possible. Est-ce que... Voilà, c'est toujours
la crainte que n'a pas Amélie, semble-t-il.
Je pense qu'il aurait aimé ce livre. Il aimait que je parle de lui, de toute façon.
Est-ce qu'il aimait que vous parliez de lui?
Alors, je pense qu'il aurait aimé cet hommage, en fait. L'hommage à cette vie quand même assez extraordinaire qu'a été la sienne. Même si elle a été plus courte que ce que moi, évidemment, j'aurais souhaité et qu'on a tous souhaité. Mais je pense là maintenant que le livre est terminé, que j'ai fait, voilà, par rapport à lui, je ne parle pas littérairement, mais par rapport à lui, plutôt bien le job. Et je l'espère, en tout cas.
Le job, c'est de raconter, et de raconter en essayant de tenir la place qui était la sienne. C'est-à-dire de raconter sans apitoiement sur soi-même et sans plainte. 15 ans, en 1941, votre père contracte la poliomyélite. Vous dites que la polio, à l'époque, dans les années 40, c'est un peu comme le Covid aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment jusqu'où ça peut vous handicaper, jusqu'où ça peut vous tuer. Comment réagit-il, ce petit Breton de 15 ans qui rêvait d'être marin, qui rêvait de tenir sur ses deux jambes pour pouvoir partir en haute mer?
Alors, en fait, la situation, comme je disais tout à l'heure, elle est très particulière. C'est-à-dire que son père a disparu en juin 40 et il est soutien de famille. Il a un frère et une sœur plus jeunes que lui. Il est soutien de famille. Ma grand-mère est serveuse dans un bar tabac du village, donc ils arrivent à peine à vivre. Et donc, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il travaille, au champ. Parce qu'en Bretagne, c'est soit la mer, soit les champs. Et donc, il fait ce travail, on va dire, d'ouvrier agricole, en même temps que ses études scolaires. Mais ça ne suffit pas. Donc, à côté, il braconne. Et pour braconner, il pose des collets. Et un jour, il pose un collet, et il ne se relève pas. Et la paralysie l'a pris complètement. Et donc, je raconte dans le livre, ensuite il est ramené. Et là, on découvre qu'il a la poliomyélite. Et évidemment, ma grand-mère, qui vient déjà de voir son mari s'évanouir, voit son fils aîné terrassé par cette maladie dont on ne connaît rien en Bretagne. Il n'y a pas de cas autour de mon père. C'est une maladie qu'on contracte, c'est un virus qu'on contracte avec l'eau, et qui entraîne des paralysies plus ou moins persistantes et plus ou moins développées. Parfois, c'est la paralysie totale jusqu'à la mort.
Il perdra l'usage de ses deux jambes, récupérera, dans des conditions que vous racontez, à terme, l'usage d'une jambe, réussira à se tenir. Qu'est-ce que c'est l'héroïsme, en réalité? C'est se battre contre, j'ai envie de dire, l'ennemi intérieur, pour reprendre une expression d'Amélie Nothomb. Cet ennemi intérieur qui est la maladie, qui est aussi ce moment où on risque de perdre pied.
C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire avec lui, ce qui m'a toujours bluffé, c'est qu'il n'a absolument rien lâché. Il sait qu'il est malade, il sait qu'il va passer, comme mon grand-père avait passé 5 ans dans la chambre des officiers, il sait qu'il va passer au moins 3-4 ans à l'hôpital en alternance avec ses études. Et donc il va continuer ses études à Paris, comme boursier. Et par ailleurs, il se fait opérer, ses copains lui apportent les devoirs, il fait les devoirs, les copains ramènent les devoirs au lycée, et il revient, et ensuite il se refait opérer, et tout ça. Et ça demande une force et une énergie, d'autant plus qu'il n'a pas d'argent, et on est en pleine guerre. Les tickets de rationnement, il n'en a pas. Et donc, en plus, il crève de faim. C'est-à-dire que, moi je me souviens, mon père me racontait toujours, et il me disait, je descendais les rues avec mes béquilles sous les bras, et quand je voyais une boulangerie, je traversais la rue pour ne pas la voir. Donc il y a quelque chose de... Et à partir de là, il va faire de son handicap une force absolument extraordinaire, et dire, je ferai oublier cette jambe, et je ferai absolument tout ce que je voudrais faire.
C'est de l'ordre de la survie, C'est de l'ordre de quoi, en réalité, cette volonté? D'où vient-elle? D'où provient-elle?
Alors, moi, j'ai eu des discussions avec lui là-dessus. Parce qu'on avait des discussions, à la fin de sa vie, on avait des discussions politiques importantes. Parce que c'est vrai que ce côté volontariste, il y a un côté, quand on a la volonté, on arrive à tout. Sauf, et là je reviens au livre de Sorge, c'est que la volonté, on peut l'avoir à partir du moment où on a des parents qui nous ont aimés, qui nous ont donné une structure, qu'on respecte. Mon père respectait ses parents. Ses parents le respectaient, l'aimaient. Et donc c'est là qu'il a puisé sa force. Je trouve que ça a été un parcours exceptionnel, mais au prix d'une dureté vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres, que, d'une certaine façon, j'ai quand même payé pendant mon enfance, parce qu'il y avait... comme il avait un peu tout réussi, comme il s'en était sorti dans des conditions absolument invraisemblables, qu'est-ce que, moi, je pouvais dire?
Est-ce que c'était un père autoritaire? Qu'est-ce que vous ne racontez pas sur ce père? Quelles sont les zones de silence?
Ah, c'était un père autoritaire, bien sûr. C'était un père... c'était un père... Il avait des colères absolument terrifiantes. Terrifiantes.
Vous les évoquez pas, hein, dans le livre?
Très rare, mais...
Non, remarqué, parce que... Sorge.
Non, parce que... Parce que c'était pas si important que ça.
C'était pas le propos. Enfin, voilà, c'est ça.
Oui, c'était pas le propos, parce qu'il avait des colères... Mais ça retombait et il y avait chez lui, il y avait au fond de lui une vraie bonté, donc on pouvait pas lui reprocher. Mais il y avait quand même une rigidité et puis il y avait surtout cette pression, moi, qu'il a pu mettre sur la réussite, qui explique d'ailleurs la première partie de ma vie après sa mort, où j'ai été dans les affaires, où, enfin, j'ai eu une vie tout à fait normale, si on considère que celle d'écrivain ne l'est pas. Et pendant 20 ans, j'ai voulu plaire à mon père et d'une certaine façon à ma mère. Et au final, je me suis rendu compte que ce n'était pas ma vie. Mais ma mère l'avait senti.
Et vous avez commencé, je le rappelle, père, vous avez eu une première vie de chef d'entreprise et vous avez commencé à écrire à l'âge de 40 ans, voilà. Publié, passé la quarantaine. Sorge Chalandon, lecteur de Marc Duguin, qu'avez-vous trouvé dans ce livre, dans ce père?
D'abord, moi, j'aime bien ce mot de statut du commandeur parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé. Pour moi, la statue du commandeur, ce sont ceux qui ont lutté contre mon père. Moi ce qui me touche, et j'envie vos deux invités qui sont là, parce qu'ils peuvent regarder leur père en face. Et ça, moi, je trouve ça... C'est vrai que...
C'est un grand privilège.
Mais c'est formidable.
Très honnêtement.
C'est un grand privilège. Et c'est vrai que...
C'est un grand privilège de garder la mémoire structurante. Oui. D'un père qu'on a aimé, qu'on a admiré, même si on s'est opposé à lui. Parce que moi, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il était tellement impressionnant,
immense,
que si je ne m'étais pas opposé à lui,
mais je comprends,
j'aurais jamais réussi à respirer.
Mais je comprends.
Se trouve que ma mère était aussi quelqu'un d'assez imposant, et en plus, il s'aimait énormément.
Vous utilisez l'expression pour parler de ce couple forteresse.
Et il vous aimait. Forteresse, exactement.
Et dans une forteresse, on ne rentre pas très facilement. Quelle est la porte d'accès pour un enfant?
Alors oui, parce qu'on parle souvent, et à raison d'ailleurs, des enfants divorcés, des enfants qui ont eu des enfants difficiles parce que leurs parents sont séparés, etc. Moi, c'était le contraire. C'est-à-dire que mes parents, c'était une forteresse. Ils s'aimaient énormément. Mon père était un féministe comme j'en ai jamais rencontré. D'où il tenait ça, j'en sais rien. Mais il considérait que ma mère devait réussir à tout prix. Et il a tout fait pour.
C'est très moderne, ça.
Ce qui est évidemment
formidable.
Très moderne. Ouais. Mais en même temps, ils étaient imposants, tous les deux. Donc il y a un moment, moi je me suis dit, si je veux exister, enfin je me suis dit, c'était inconscient, mais si je veux exister, il faut que je m'oppose à eux.
Amélie Nothomb.
J'adore. Pour moi, le point magique de ce livre, c'est résumé par le titre, c'est la volonté, c'est ça la grande énigme. On sent que ce qui vous a permis de devenir, vous, Marc Duguin, c'est le moment où, très mystérieusement, vous avez attrapé la volonté de votre père. Votre père est un exemple de volonté incroyable, et on sent que quand vous êtes tout jeune, vous en êtes tout à fait incapable, ce qui est normal, quand on est enfant ou adolescent, c'est très difficile d'avoir de la volonté. Et tout à coup, on ne sait même pas comment, par quelle magie, vous attrapez la volonté de votre père et vous devenez Marc Duguin. Ça, c'est absolument fascinant. Ça fonde le titre de votre livre et ça vous fonde vous-même.
Et mieux encore, vous marchez pour lui.
Et je cours pour lui.
Et vous courez pour lui.
J'ai été victime très longtemps d'un syndrome qui était que je courais tout le temps.
Mais vous courez parce que vous avez deux jambes.
Et je courais parce que, effectivement, parce que j'avais deux jambes.
Et qu'est-ce que vous fuyez en courant ?
Je fuyais le handicap familial. Parce que c'est quand même... Moi, il n'y a pas de résilience sur un traumatisme particulier par rapport à mes parents. Il y a eu un combat, je dirais, loyal. Ce combat qu'on a à l'adolescence, qui a été un combat loyal et qui s'est bien terminé par la paix entre les parties. Et ensuite, on a eu des années formidables ensemble. Mais quelque part quand même, il y a, parce qu'il y avait mon père handicapé et mon grand-père défiguré, c'était lourd dans la famille. Et pour un enfant, ça a été très lourd pour moi parce que ça a totalement altéré le sens des choses. C'est-à-dire que ça m'a mis très jeune dans une relativité des choses à laquelle on n'aspire pas quand on est un gamin. Quand on est un gamin, on a envie de croire à plein de choses. Et moi, d'un seul coup, j'ai douté, je me souviens, parce que j'étais un enfant sombre, et du fait que mes parents avaient beaucoup d'activités, j'étais très souvent avec ma grand-mère. Et en fait, j'étais replié sur moi-même parce que j'avais une peur du monde. Parce que je n'arrivais pas. Et c'est pour ça, tout ce côté velléitaire que j'ai eu très longtemps, c'est que je n'arrivais pas à croire dans quelque chose, dans les valeurs qu'on nous... Parce que la vie, c'est s'accrocher à quelque chose, y croire, et puis voilà, quand c'est fini...
Je trouve qu'être enfant... Élevé entre une jambe malade et une gueule cassée, on doute de tout. Enfin, je veux dire, c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est ça qui m'attend. Et je trouve ça, moi, bouleversant. Quoi.
Ça n'a pas changé près d'un demi-siècle plus tard. Est-ce que c'est ça qui donne cette phrase, page 225, et qui nous ramène à du vrai Duguin, c'est-à-dire ce Duguin qui, dans ses romans polars ou dans ses romans historiques, vous cueille avec une question métaphysique. La voici. On vit, on meurt. Et entre les deux, on essaye de donner du sens à tout cela.
Très joli.
Ben, c'est un peu ça. C'est un peu ça, mais quand on a
quel
déjà ça, quand on a
déjà ça
en tête, quand
quel
on est enfant, il y a un décalage avec les autres enfants qui est impressionnant. Parce que ça, c'est une phrase de maturité. Le problème, c'est que moi, j'avais déjà ce sentiment-là quand j'étais môme. On vit, on meurt, et on donne un petit peu de sens à tout ça, au milieu. Donc, alors, ce n'est pas vraiment un enfant dépressif, c'est juste un enfant qui a un sens de la relativité qui va un peu loin. Et donc, toute la difficulté pour moi de me construire, ça a été de donner du sens aux choses, et qui explique un peu ma boulimie à faire et des livres et des films, et à produire les films des autres. C'est que ce sens, je l'ai trouvé et je m'y accroche, finalement. Mais ça a mis du temps, parce que j'ai commencé à 40 ans.
Restez sur ce divan, Marc Duguin, jusqu'à la prochaine fois, jusqu'au prochain livre, vous y êtes très bien. La volonté.
Deux excellents psychanalystes.
Non, des lecteurs.
C'est peut-être la même chose, allez savoir.
Peut-être.
Parfois.
Peut-être.
La volonté, le nouveau Marc Duguin, c'est aux éditions Gallimard. Alors, on va maintenant se livrer à ce que vous adorez, chers téléspectateurs, futurs lecteurs, c'est-à-dire le petit jeu de la rentrée littéraire. Et il faut dire que c'est un bonheur d'aller dans les librairies en ce moment où vous pouvez, peut-être plus qu'à tout moment de l'année, découvrir des nouvelles plumes. J'adore ça. Ben, ça tombe bien, parce que voici maintenant un petit bijou. C'est le meilleur des premiers romans de la rentrée littéraire. C'est même l'un des meilleurs romans tout court de cette rentrée littéraire. Suspense à couper le souffle. Intensité incroyable, style au cordeau. Bref, vous allez adorer Blizzard, premier roman époustouflant de Marie Vintras, publié aux éditions de L'Olivier. Nous sommes en Alaska, en pleine tempête de neige. Une femme est sortie avec un enfant, un garçon de 10 ans. Elle lui lâche la main. Oh, rien, quelques secondes, le temps de refaire ses lacets. L'enfant disparaît. Elle se lance à sa recherche, suivie par les rares habitants de ce bout du monde. Alors, il y a là un homme du cru, aux manières d'ours, son acolyte, homme de main, et puis un vétéran du Vietnam. Et c'est la figure paternelle qui plane au-dessus de chaque protagoniste. Voici un huis clos à ciel ouvert avec quatre personnages qui cachent de lourds secrets lancés à la recherche d'un gosse au milieu de nulle part en pleine tempête de neige. Où l'on découvrira que les héros et les salauds ne sont pas forcément ceux que l'on croit et que la paternité n'est pas si facile à endosser. Avant d'ouvrir votre roman, Marie Vintras. J'aimerais que nous fassions connaissance, puisqu'on vous découvre ce soir sur ce plateau. Marie Vintras, c'est un pseudonyme. Ce n'est pas votre nom de famille. Pour quelle raison avez-vous choisi ce nom, Vintras?
C'était un pseudonyme dans un pseudonyme, puisque tout le monde, enfin, tous les lecteurs de Gilles Vallès vont évidemment penser à Jacques Vintras. Mais il y avait dans le nom de Jacques Vintras une femme qui s'appelait Caroline Rémy, qui écrivait sous le nom de plume de Séverine, et qui était le secrétaire de Gilles Vallès. Elle insistait sur le masculin. Et elle écrivait aussi ses papiers sous le nom d'Arthur Vintras. Et c'est la première femme rédactrice en chef d'un journal en France, grand reporter, évidemment, totalement oublié, puisque je suppose que personne ici ne la connaît. Et donc j'avais envie de ce petit clin d'œil à une pionnière, une femme qui a marqué son époque et qu'on a complètement oublié.
Pseudo dans le pseudo, on me dit que vous avez envoyé ce roman admirable, parce que parfaitement maîtrisé, par la Poste.
Oui.
Voilà, c'est juste pour tordre le cou à cette rumeur qui voudrait que ce milieu soit tellement incestueux qu'on ne puisse plus découvrir d'écrivains et de très bons écrivains tout simplement par la Poste. Bah, vous en êtes la preuve.
J'ai même eu la surprise quand Jeanne Grange, elle Olivier, m'a dit « mais on ne publie pas souvent de romans ». Je dis « ah bon ?» et je croyais que tout arrivait par la Poste. Donc voilà.
On va rien révéler, Marie Vintras, du suspense incroyable qui tient jusqu'à la dernière page. Un homme qui abandonne sa femme au moment où elle tombe enceinte, est-ce que c'est un salaud?
Non, je crois que j'ai vraiment beaucoup de mal à qualifier quelqu'un de salaud, parce que je n'arrive même pas à qualifier de salaud le père de Sorge.
Merci.
C'est toujours plus complexe. La vérité est très fuyante. D'ailleurs, vous avez une très belle phrase dans votre livre sur tout. Je ne vais pas la restituer parfaitement, mais... Tout ce qu'il racontait était faux et tout ce qu'il prétendait était vrai. Je l'ai peut-être fait dans le sens inverse. Voilà, la vérité, le mensonge, comment savoir exactement où est le vrai? Personne ne le sait jamais, je crois.
Les circonstances atténuantes existent?
Oui. Il est incapable d'être père, donc c'est pas une vraie excuse, mais ça arrive.
En même temps, s'il avait assumé son rôle, cet homme-là, on n'aurait pas eu... un enfant perdu dans le blizzard. Donc, quelque part, heureusement. Ce n'est pas seulement ce livre, La quête d'un enfant dans le blizzard, avec quatre protagonistes qui revisitent leur vie au fur et à mesure qu'ils essayent de progresser et qu'ils ne voient pas où ils vont. C'est aussi la quête de quelque chose de plus profond. Quoi, diriez-vous?
C'est vraiment la culpabilité qui... J'ai vraiment l'impression, en tant que femme, ça va peut-être choquer les... qu'on apprend très vite aux filles à culpabiliser. On culpabilise très rapidement, c'est quelque chose... Et moi, j'ai culpabilisé pendant 40 ans, non-stop.
De quoi?
De tout et de rien, d'ailleurs. C'est vraiment coupable par omission, coupable par faute, coupable pour rien, coupable de rien. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que j'étais pas si coupable que ça ou pas coupable de choses très graves.
Mais quand vous dites « on apprend très jeune », aux enfants, ça veut dire que ce sont les parents
filles, je ne sais pas si Amélie Nothomb va le ressentir comme ça. Peut-être que sa famille n'était pas comme ça, mais très vite, on apprend aux petites filles qu'il faut pas, il faut faire attention à sa jupe, il ne faut pas écarter les jambes, il ne faut pas courir, il ne faut pas exprimer ses désirs de manière pas être trop ambitieuse, pas être... C'est peut-être quelque chose qui vous échappe. Je viens d'une famille de... Nous sommes 5 filles, donc j'ai pu apprécier le... Mais c'est quelque chose d'induit. C'est pas, mes parents ne m'ont pas appris à culpabiliser. Mais j'ai fait ça très, très bien.
Je comprends très bien ce que vous dites.
Quand je vous demandais de quelle quête il s'agissait, c'est vrai qu'il y en a deux, peut-être. La culpabilité et ses origines, et aussi la paternité et sa difficulté. Elle plane, cette question-là, sur tous les protagonistes. Et vous la liez à la culpabilité. La paternité?
Ouais.
La culpabilité, quels sont leurs liens?
Je dois avouer, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, que j'ai eu un moment d'absence. Je me suis dit, mais quel rapport avec ces trois livres qui sont vraiment des livres sur les pères, la petite histoire et la grande histoire en même temps. Je me suis dit, mais pourquoi? Et vraiment, il m'a fallu une nuit pour me dire, mais il y a quatre pères dans le livre et je ne m'en étais même pas rendu compte.
Non, sérieusement, vous ne vous rendiez pas compte que vous écriviez sur ce sujet?
Non, je pourrais vous faire une blague et vous dire 10 ans d'analyse à parler de ma mère et je fais un bouquin avec quatre pères. C'est quand même... Mais c'était la figure masculine qui m'intéressait dans ce livre. Finalement, un domaine étranger pour moi, une famille de filles. Et donc, j'ai parlé d'hommes sans me rendre compte qu'effectivement, c'était des pères de substitution, des pères qui fuient, des pères qui jamais ne connaissent l'échec, des pères... qui commettent...
Toutes les variétés, tout ce qu'on peut imaginer d'un père, vous réussissez dans un roman qui est bref, qui est cinglant, 180 pages, mais il n'en fallait pas une de plus. Vous réussissez à le mettre en place. Qu'est-ce qui, dans la paternité, vous travaille, vous questionne ?
C'est au-delà des liens du sang, c'est vraiment les... Finalement, j'aurais tendance à relativiser les liens du sang. Il y a vraiment des rencontres dans la vie, des rapports qui sont puissants et qui dureront jusqu'à la mort, alors que les liens du sang, ça me paraît plus fluctuant. Là c'est vraiment un assemblage de personnes, le rapport entre Freeman et Bénédicte à la fin du roman. Voilà, c'est cette espèce d'assemblage entre deux hommes qui ne sont ni père ni fils. Ça, c'était, j'avais envie de creuser cet aspect-là.
Page 29, je lis ceci. « Je n'ai même pas su lui transmettre ce qu'un père doit transmettre à son fils. » Et là, je m'arrête après avoir lu Marc Dugain et Serge Chalandon et Amélie Nothomb. Mais qu'est-ce qu'un père doit transmettre à son fils ?
Je ne peux pas vous répondre.
Ou à sa fille ?
Ça reste un mystère pour moi. Ça reste beaucoup moins évident que ce qu'une mère pourrait transmettre à sa fille, ou même à son fils d'ailleurs. Dans le roman de Marc Dugain, curieusement, contrairement à vous, je me suis sentie très proche de ce jeune homme qui ne supporte pas le poids du père, le père qui est parfait, le père qui a dépassé les obstacles, qui a fait une carrière fantastique, qui attend de ses fils autant de... Et là, vraiment, ça m'a vraiment parlé, ce passage de rébellion, peut-être désespoir d'enfant, peut-être que je me trompe, désespoir d'enfant, de est-ce que je vais réussir à être à la hauteur de ce père-là ? Donc il y a... Des pères qui attendent trop, des pères qui n'attendent pas assez. Je ne sais pas, ça reste... Ce n'est pas mon domaine de prédilection. Ce n'est pas un domaine de compétence, en tous les cas.
Impossible, Marie Vintras, de dévoiler à nos téléspectateurs, qui dès demain seront vos lecteurs, la moindre information, le plus petit indice. De toute façon, quand bien même en dévoilerai-je, ce livre est tellement bien fait que vous ne devinerez jamais ce qui se passe à la fin. Bon, bref. Parlons des personnages.
Le blizzard, quand même.
Blizzard.
Vous voulez... Ils sont en plein blizzard. Enfin,
ah bah très bien, alors personne... allons-y. Partons sur le blizzard. Allons-y.
Personne ne voit plus rien, personne ne comprend plus rien. Et ce ne sont plus que des ombres, ils ne savent plus où ils sont.
Oui.
Et je trouve que le blizzard permet de se poser des questions sur soi, déjà. Et je trouve, j'aurais aimé qu'on soit tous en plein blizzard à un moment donné, pour réfléchir.
De quoi est-il la métaphore, ce blizzard ? Comme le suggère Serge Chalandon, de nos désarrois intérieurs ?
C'est l'absence de fuite. On ne peut pas partir. Le terme huis clos, sur lequel c'est un huis clos en pleine nature. Il n'y a pas d'échappatoire. Donc on est seul avec soi-même. On est obligé de monologuer. Il ne peut pas vraiment y avoir de mensonges dans le monologue. Peut-être, est-ce que votre père mentait quand il monologuait ?
Moi, justement, ce qui m'intéresse, c'est que comme vous avez choisi le monologue, et c'est vrai que le monologue, on ne ment pas. Je veux dire, ou bien alors, on se ment à soi. Mais moi, ce que j'aime dans ce livre, ce qui me touche beaucoup, c'est qu'ils disent tous vrai, quoi, puisqu'ils se parlent. Et nous sommes au creux de leur oreille.
Y compris les pires.
Y compris les plus salauds. Les pires. Donc, j'ai la chance inouïe d'être dans tous les personnages et de savoir ce que d'autres personnages dans le livre ne savent pas d'eux. Mais moi, je suis lecteur. Et moi, vous me donnez toutes les clés. Alors, ça va être plus compliqué, mais j'ai les clés qui me permettent de comprendre ce que nous n'avons pas, nous. C'est-à-dire que, n'étant pas... Même si vous avez repris votre père, c'est le jeu qui parle, etc. Je n'entends pas ailleurs que dans ce livre-là des gens dire la vérité. Et le monologue, c'est la vérité. On n'a pas le choix. Moi, quand je sors...
Est-ce qu'on peut ajouter qu'il risque de mourir ? Parce qu'il se jette en plein blizzard, en pleine tempête, à la poursuite d'un gamin, sans savoir où ils vont, et il risque d'y passer.
Et surtout,
on est encore plus près de la vérité.
Et surtout, ce qui est terrifiant, c'est qu'il savait que le blizzard... arriver. C'est pas une surprise, ils sont pas pris par le blizzard, ils vont dans le blizzard.
Bon, mais d'où est venue cette idée ? Comment est né ce livre, Marie Vintras ?
Il est venu après 7 autres tentatives ratées. Je n'arrivais jamais à finir ce que je commençais à écrire. Et le début du livre me vient. J'ai lâché sa main, je l'ai perdu, et je me dis, tiens, quand est-ce qu'on peut perdre un enfant ? sans le retrouver tout de suite. Donc il faut que ce soit des conditions climatiques un peu importantes, un blizzard. Moi, forcément, le blizzard, il est en Alaska pour moi, donc il est Amérique du Nord. Et je suis rentrée et j'ai commencé à écrire, surtout avec un stylo. J'ai remisé l'ordinateur et là, voilà.
C'est très fort parce que ce titre, enfin, c'est carrément la structure narrative du livre. Oui. Ces personnages qui se perdent les uns les autres, qui ne voient plus, on est dans le bizarre, on ne voit plus, et le lecteur est dans la même situation. Il ne comprend pas tout de suite, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis, peu à peu, le puzzle se réunit. C'est très intéressant, c'est très bien fait.
D'autant plus que ce n'est pas une mère qui perd son enfant.
Et non. Ah oui, on va rentrer trop non plus. Disons qu'on ne connaît pas vraiment les liens qui unissent cette femme aux hommes présents sur place.
C'est ça.
Et à ce gamin.
Et à ce gamin.
Enfin, quand même une chose, vous parliez de la culpabilité. La culpabilité est surtout présente chez cette femme. Elle a de bonnes raisons, me direz-vous.
Raison.
Freeman aussi a de bonnes raisons de culpabilité.
Mais Freeman est père.
Oui.
Alors Freeman, parlons-en. On a dit c'est le seul noir présent dans cette région. C'est un vétéran du Vietnam. Son fils, un peu comme lui, a fait l'armée, mais il est parti en Irak et il en est revenu vétéran. Est-ce qu'il y a une malédiction des pères et des fils?
Il y a une malédiction, de mon point de vue, une malédiction de la légende familiale. Et je pense qu'il y a une malédiction du héros. C'est pas votre cas. Et peut-être que c'est plus compliqué là. Pas chez Amélie Nothomb où les choses sont beaucoup plus. Moi, j'ai très peur des légendes familiales. Et j'ai très peur.
Vous avez peur de cette légende familiale?
J'ai peur des héros. J'ai peur des. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a derrière. Là, dans ce cas, vous savez. Mais les héros. Ah, ton grand-père a fait ça. Ton arrière-grand-père.
C'est les héros de guerre dont vous parlez là surtout. Qui sont.
Pas seulement les héros de guerre.
Qui peuvent être redoutables quelque part.
Pas seulement les héros de guerre. Tous ceux que nous n'avons pas connus parce qu'ils sont morts avant notre naissance et que nous n'avons pas pu. Confrontés. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me...
Mais la guerre que raconte Freeman, votre personnage, et vous le faites avec une économie moyenne qui est absolument stupéfiante, c'est une guerre qui n'a rien à voir avec celle de 39-45, celle que raconte Serge Chalandon. C'est une guerre à coups de psychotropes, c'est une guerre au cours de laquelle les soldats sont drogués, reviennent accros aux substances au XXIe siècle. Ce sont les vétérans d'Irak.
Ouais. Oui, c'était quelque chose qui... Il y a un correcteur du livre qui m'a dit, mais il souffre des troubles, je cherche le terme, les soldats qui souffrent de troubles post-traumatiques, je vais y arriver. Et j'ai répondu, non, c'est vraiment les drogues, c'est vraiment les amphétamines qu'on leur donne pour tenir, les somnifères pour dormir après. Donc on en fait des espèces de petits cobayes.
La fabrication chimique des héros,
voilà.
qui existait déjà d'ailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on a découvert assez tardivement à quel point les soldats allemands étaient drogués, mais dans des quantités absolument incroyables. Et les soldats américains, ça, on en est sûr, au Vietnam déjà,
on les laissait se droguer, on les laissait libre accès aux drogues.
En 14, c'était le schnapps et l'agneau.
Le roman se déroule en Alaska. Évidemment, dans ces grands espaces, on sent dès les premières pages l'influence, le poids, l'héritage d'une littérature américaine. Que lui devez-vous? Qui sont ceux à l'ombre desquels vous écrivez?
Je dois à la littérature américaine d'avoir écrit parce que j'étais écrasée par la littérature française. C'était insurmontable, en fait. J'avais l'impression que c'était tellement intelligent, tellement bien écrit, qu'il fallait faire des phrases. Je parle de mes 20 ans, même mes 30 ans. Et donc, c'était... c'est par des romans américains. Et c'est vrai que, par exemple, Trailer Park de Russell Banks.
Russell Banks, oui.
Que j'ai lu en même temps, je pense, que Le Testament en anglais de Jonathan Coe. Et je me suis dit, c'est très intéressant, cette structure de roman. Ça me paraît offrir un cadenas, et puis après, on remplit. Et puis après, j'ai mangé de la littérature américaine, nord-américaine aussi.
Est-ce que ce livre-là a joué un rôle, Second Island, de David Vann?
Oui, mais alors, il a fait...
C'est sans doute le livre le plus génial, le plus terrifiant de toute l'histoire de la littérature contemporaine.
Consacré à la paternité, on n'a jamais fait pire.
Oui. Enfin, Marie Vintras est très largement sur ses traces, si je peux me permettre.
Il a fait ce que j'aurais rêvé de faire. Je rêvais au départ d'un... Enfin, je ne vais pas raconter la fin de mon livre.
Surtout pas. Surtout pas.
Voilà, il est allé là où je pensais aller, je me suis arrêtée.
Enfin, cela dit, il y a quand même une radicalité à laquelle vous acceptez de vous confronter. Et très souvent, elle est absente de la littérature. Oser aller jusque-là, dans la description même aussi, physique, des choses ou du mal.
Je crois que la vie est souvent assez brutale. Moi, j'ai envie de raconter quelque chose qui soit vrai. Alors, c'est une économie de mots et voilà, j'économise les mots. Ça aurait pu être plus long, ça aurait pu être plus détaillé, mais pour être au plus près de la vie telle qu'elle est, de la réalité, même quand elle est brutale et quand elle est très violente.
Blizzard. Marie Vintras, premier roman, c'est aux éditions de l'Olivier. Lisez-le. Franchement, vous allez tomber. On arrive à la fin de cette émission. Merci de nous avoir permis de reposer d'autres questions ou de les formuler différemment sur la paternité. Marc Duguin, Méline Autombe, Sorge Chalandon et Marie Vintras. On a commencé avec Dostoïevski et vous. On va finir avec Dostoïevski et les Karamazov. Il écrivait... Dostoïevski, dans Les Frères Karamazov, cette phrase « Il ne suffit pas d'engendrer pour être père, il faut encore mériter ce titre ». Que vous inspire cette phrase ?
C'est magnifique, ça.
C'est magnifique et c'est tellement vrai. Mon père disait toujours « J'espère que je suis un père parce que je ne sais pas ce que c'est ». Je crois que c'était une très bonne manière d'être un père.
Merci beaucoup. Lisez pour comprendre votre père, pour comprendre le monde. Lisez tout simplement... parce que c'est important, parce que ça fait vivre mieux, un petit peu mieux. Vous pouvez dans un instant reprendre une activité normale, comme disait l'autre, c'est-à-dire vous mettre sur les réseaux sociaux, répondre à la question qui vous sera posée et repartir avec tous les livres dont nous avons parlé ce soir. C'est pas bien la grande librairie ? Ben voilà. Rendez-vous la semaine prochaine pour une deuxième émission de Rentrée littéraire. Nous serons en compagnie de Colm McCann, Lydie Salvert, et puis alors, là encore, une découverte. Il s'appelle Mohamed Bougarsar. Alors là, croyez-moi, on est aussi dans le très grand roman. C'est pas un premier roman. Et puis Michel Onfray, qui viendra nous parler aussi de l'histoire de la littérature. Je vous souhaite de belles lectures. À mercredi prochain. C'était La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.